14h,
la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Si vous nous rejoignez à l'instant, ici vous savez que notre ADN c'est la créativité, l'audace, l'inventivité, la vôtre bien sûr. Et ce qui nous frappe depuis bientôt 50 jours que nous sommes confinés, c'est votre formidable capacité à vous renouveler, à vous adapter, à imaginer le monde de demain. Cette France d'après, elle passe par une période charnière, une sorte de sas qui ne sera pas le retour à la normale, si tant est qu'on puisse y revenir, mais une parenthèse durant laquelle il va nous falloir apprendre à vivre avec des barrières, de la distance. Alors, pour nous aider à nous plier à ces nouvelles règles, eh bien, des Français ont trouvé des solutions pour les accueillir. Comme chaque jour, elle est à mes côtés, confinée mais connectée, Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ?
Je vais bien et vous-même ?
Mais ça va, on confine, rester patient. Avant
exactement, c'est le maître mot, vous avez raison, la patience. Et c'est vrai que dans les jours qui viennent, même si pour l'instant les dates fluctuent, on ne sera véritablement fixé a priori que le 7 mai, nous devrions petit à petit reprendre le chemin du travail. Le problème numéro un, et on l'a vu dans le Grand Journal avec Pierre de Villeneuve, c'est celui des transports. Un vrai casse-tête pour les entreprises qui l'assurent, mais aussi pour nous, les usagers. Ce qui est vrai pour nous l'est aussi d'ailleurs pour tous les véhicules utilitaires. Bonjour Patrick Gruot.
Bonjour à vous.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président du groupe éponyme. Le gouvernement a souhaité une reprise d'activité rapide, mais cela, c'est vrai, pose un tas de problèmes logistiques. Vous avez donc imaginé, vous, pour les entreprises qui ont des véhicules utilitaires, des kits de protection ?
Oui, c'est ça. Il s'agit d'un produit, une cloison souple qui permet de protéger à l'intérieur d'une cabine de véhicule utilitaire 2, 3 ou 4 personnes selon l'aménagement que comporte la cabine. Donc c'est une idée qui nous est venue avec en écoutant nos clients, des grands comptes qui avaient cette préoccupation de pouvoir de rassurer leurs collaborateurs pour qu'ils puissent reprendre la route et aller sur les chantiers, qu'ils soient des travaux publics ou du bâtiment en particulier, et donc de pouvoir non pas avoir une seule personne à l'intérieur d'un véhicule, mais 2, 3 ou 4 selon la configuration.
Alors comment ça fonctionne ? N'importe qui peut justement utiliser ces kits dans n'importe quel véhicule ?
Oui, en fait, ce sont des cloisons souples de type cristal, c'est-à-dire translucide, qui permettent de pouvoir favoriser le lien social à l'intérieur du véhicule, mais aussi de favoriser la vue, bien évidemment, le champ de rétrovision, donc dans des éléments de sécurité, bien évidemment aussi au milieu de la circulation. Et c'est une cloison qui est amovible, qui se fixe d'abord très facilement, qui se démonte pour pouvoir être lavé à l'aide de gel hydroalcoolique, tout simplement, et à l'aide d'un chiffon doux. Et tout ceci se fait de façon très simple et se monte d'une façon très simple à l'intérieur du véhicule à l'aide
C'est-à-dire que cette cloison va venir entre le chauffeur et le siège passager, par exemple,
Exactement.
Et comment est-ce que vous la fixez ?
Alors nous la fixons, alors si c'est une cloison longitudinale, c'est-à-dire dans le sens de la marche, s'il n'y a que 2 ou 3 places à sur la cabine avant, nous la séparons en deux places. Et s'il y a une cabine approfondie, c'est-à-dire une banquette supérieure, une banquette complémentaire à l'arrière, eh bien on le redivise en deux à ce moment-là, ce qui fait 2, 3 ou 4 places selon le nombre de portes. Et ça se fixe à l'aide de velcro, à l'aide d'agrafes sur le véhicule sans le blesser, c'est-à-dire à des endroits particuliers où on peut s'agrafer ou coller sur le pare-brise le velcro pour permettre justement cette étanchéité aux protections, aux projections qu'il peut y avoir lors de discussions à l'intérieur d'un véhicule, par exemple.
Oui, ça va servir aussi bien aux entreprises du bâtiment, par exemple, qu'aux camions des Restos du Cœur.
Ah, exactement, c'est-à-dire pouvoir rouler à l'intérieur d'un utilitaire à plusieurs en toute sécurité. C'est ça qui, en fait, nous avons aussi imaginé la même chose pour les ambulances. Nous sommes fabricants d'ambulances également, oui, pour protéger le patient du reste des personnes soignantes qui sont à l'intérieur d'une ambulance. On a imaginé également un système tunnel qu'on appelle, qui peut permettre de protéger le brancard et surtout la personne qui est le patient qui se trouve dessus. Donc en fait, il y a de multiples usages. Tous les utilisateurs de véhicules utilitaires, à partir du moment où ils peuvent, où ils transportent 2 ou 3 personnes ou 4, eh bien, ont la possibilité d'être protégés grâce à cette cloison Protecman. Voilà.
Ce système, je crois que la semaine dernière, vous en étiez déjà à plus de 3000 commandes, c'est bien ça ?
Vous êtes bien renseigné, effectivement, et je pense que cette semaine, nous serons proches des 4000, puisque des grands donneurs d'ordre nous ont témoigné d'intérêt, mais aussi des constructeurs qui ont envie d'équiper sous la forme d'un équipement complémentaire leurs véhicules pour favoriser la livraison de ces véhicules et la vente de leurs véhicules utilitaires.
Alors vous allez rester avec nous, on va s'intéresser aux transports en général. Elisabeth, concernant les transports justement, c'est vrai que c'est un véritable casse-tête, hein, y compris pour le gouvernement à mettre en place.
Oui, alors le Premier ministre a annoncé mardi dernier que le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale vont être obligatoires pendant 3 semaines au moins après le 11 mai. Ça c'était mardi dernier. Ça signifie quoi ? Distribution de masques, distributeur automatique de gel hydroalcoolique en libre-service installé dans les gares, sans oublier infiltrage des entrées de chaque grande gare ou station. Sachons, pour vous donner une idée, en temps normal, rien que pour l'Île-de-France, pour la région parisienne, ils sont près de 5 millions à utiliser les transports en commun pour circuler. Donc l'objectif, c'est de limiter cet afflux en le réduisant à 1,5 voire 2 millions de voyageurs. Et dans certains cas, le gouvernement n'exclut pas de fermer certaines stations, je vous parle toujours de Paris, pour pouvoir s'assurer que le flux d'entrée dans les transports en commun soit bien maîtrisé.
Alors justement, les transports en commun, on le voit, hein, c'est la grande interrogation, la grande crainte aussi de tous les usagers. Les élus, eux, redoutent de devoir gérer les fameux flux trop importants, les usagers de se retrouver dans des bus, des métros ou des trams bondés. Mais vous allez voir que justement, il existe de nouveaux systèmes qui commencent à émerger pour nous aider. Bonjour Grégoire Bonnat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Padam Mobility. Vous imaginé une appli qui permet justement de réserver sa place dans un bus. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Oui, alors donc Padam Mobility, c'est effectivement une start-up qui propose une solution technologique pour le transport à la demande. Donc le transport à la demande, c'est un transport en commun qui est sur réservation, donc où les utilisateurs vont utiliser une application, un site internet ou éventuellement un centre d'appel pour réserver un trajet. Et on va ensuite les grouper au sein d'itinéraires, donc de lignes de transport en commun qui vont être optimisées de manière dynamique. Donc ça, c'est déjà ce qu'on fait, c'est déjà le cœur de métier de Padam Mobility. Et aujourd'hui, on est en contact donc avec un certain nombre de villes pour étendre ce fonctionnement de réservation du trajet, y compris à des lignes de bus fixes, en fait, des lignes de bus qui fonctionnent classiquement.
Donc ça signifie que le matin, avant de partir de chez moi, je vais réserver ma place dans mon bus numéro 30, par exemple, et puis je vais savoir si je peux monter à 7h10 ou à 7h25 ?
Exactement. Et donc l'intérêt, c'est que déjà, c'est quelque chose qui est très facile à faire pour l'usager. Donc les applications qu'on met en œuvre, ça fait donc des années qu'on les propose, elles sont très faciles à utiliser, ça fera peut-être prendre 10-15 secondes de réserver un trajet, et ça va vous éviter éventuellement d'aller attendre un arrêt où déjà l'arrêt pourrait être lui-même un petit peu bondé, si les bus eux-mêmes sont limités, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de places qui vont être condamnées dans les véhicules. À ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir seulement 10-15 personnes qui vont pouvoir monter dans un véhicule. Donc l'objectif, c'est d'éviter une affluence au niveau des arrêts, d'éviter aussi un rôle qui serait donné au conducteur de devoir interdire l'entrée dans le véhicule à des usagers, ce qui paraît très compliqué. Donc c'est ce que vraiment la réservation du trajet va pouvoir permettre d'éviter.
Cette offre, elle fonctionne déjà, hein, vous nous l'avez dit. Ce sont les collectivités locales, oui, qui aujourd'hui vous demandent de faire un outil encore plus adapté à leur ligne de transport. Vous devez à chaque fois finalement connaître la ligne que vous allez devoir desservir.
Exactement. Donc, les solutions qu'on met en place avec Padam Mobility sont déjà accessibles dans des dizaines de villes. Et dès le début du confinement, les villes ont dû réagir très rapidement. Donc, quelquefois, elles ont tout arrêté, mais souvent, elles doivent maintenir un transport en commun déjà un peu minimum. Donc, on a déjà en fait mis en œuvre un certain nombre de modifications pour nos clients. Par exemple, en réduisant le nombre de places réservable à bord des véhicules, en étendant le service dans certains cas. On a remplacé des lignes fixes, on a l'exemple par exemple d'un service en Italie où on a transformé un service de nuit en service de jour pour les soignants. Donc on voit que les collectivités n'ont pas hésité à venir nous demander de faire un certain nombre d'adaptations. Et là, cette période de déconfinement, c'est une nouvelle occasion de changer, on va dire, les habitudes, de réinventer un petit peu le service de transport pour l'adapter aux contraintes sanitaires auxquelles on fait face.
Et oui, c'est vrai qu'on est en train de réinventer pas mal de choses. Elisabeth, en matière de vélo aussi, hein, il y a la mise en place de la plateforme coup-de-pouce-vélo.fr, je crois.
Oui, parce que le vélo doit trouver toute sa place hein, dans cette stratégie de déconfinement. Ainsi, les personnes qui souhaitent remettre en état un vélo d'occasion, je suis sûre que vous en avez un, Raphaël, au fond de votre cave qui n'a pas servi depuis
tout
longtemps.
Tout au fond.
Eh bien voilà, vous avez la possibilité de trouver un professionnel sur la plateforme coup-de-pouce-vélo.fr, coup-de-pouce-vélo-tout-attaché.fr à partir du 11 mai. C'est ce qu'a indiqué la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, et les réparateurs professionnels ainsi que les associations. De leur côté, elles peuvent s'inscrire du 4 au 7 mai pour pouvoir répondre à la demande. Le gouvernement a mis en place un forfait de 50 euros pris en charge par l'État pour faire réparer son vélo d'occasion ou au moins de couvrir une partie des frais. Sur présentation d'une pièce d'identité, d'un téléphone portable, c'est ce qu'indique donc la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et l'objectif de tout ça, eh bien, c'est de remettre en route environ 300 000 vélos qui dorment en ce moment.
Et puis toujours pour les vélos, justement, les collectivités sont en train de relancer le système des pistes cyclables.
Hein. Partout en France, hein, au moment où je vous parle, par exemple, la ville de Montreuil a annoncé déployer temporairement près de 8 km de pistes cyclables. C'est une initiative pour encourager donc les déplacements à vélo et donc éviter la foule dans les transports en commun lors du déconfinement. Du côté d'Aix-Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence dévoile un plan vélo d'urgence en vue du déconfinement à Marseille. Des voies automobiles seront notamment supprimées pour laisser de la place aux pistes cyclables ou encore le département des Hauts-de-Seine qui va aménager plus de 40 kilomètres de pistes cyclables.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur les transports. Évidemment, on va continuer à parler de cette période charnière qui s'annonce entre confinement et déconfinement. On reste ensemble sur Europe 1, 13h18.
Europe 1.
Comment respecter les distances réglementaires qui vont devenir la norme? Des entreprises françaises ont commencé à concevoir des outils pour nous aider. A tout de suite.
La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe 1, La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h21 sur Europe 1. Quand nous faisons la queue désormais pour entrer au supermarché, nous nous espaçons naturellement hein, d'un mètre au moins. Mais quand il va s'agir de circuler en entreprise, comment savoir quelles sont les bonnes distances? Pour ça, eh bien, de nouveaux outils sont en train de faire leur apparition. Bonjour François Cretat.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et PDG du Budu. Vous avez mis sur le marché un petit boîtier qui en fait va nous permettre de savoir instantanément si nous respectons la bonne distance. Ça signifie que chaque entreprise peut équiper par exemple ses salariés et quand nous sommes trop près, le boîtier va sonner?
Exactement. Le boîtier est porté donc soit au bras par exemple, soit comme un badge. Par chacun des employés. On peut définir un seuil de sécurité. Donc ce seuil, il faut le définir à minimum à 1 mètre. C'est ce que la recommandation du gouvernement, mais ça peut être fixé un peu au-delà. Et derrière, ce boîtier va émettre une alarme, qui est une vibration ou un LED, qui peut être lui aussi paramétrable quand ce seuil est franchi.
Donc c'est à l'entreprise, par exemple, de paramétrer les distances de sécurité. Ça peut être très utile dans une usine, par exemple, fixer le lieu des postes de travail.
Exactement. Dans tous les lieux dans lesquels le marquage au sol n'est pas efficace et dans lesquels il y a des mouvements en fait, des employés, donc des mouvements dynamiques, C'est un dispositif qui est très adapté et très précis aussi, puisque la distance, en fait, est une précision d'à peu près 10 cm.
Qu'est-ce qu'il y a dans le boîtier qui permet justement d'être aussi précis, aussi fin ?
Donc, ça utilise une technologie qu'on utilise d'habitude pour faire de la géolocalisation intérieure, qui est la spécialité de notre entreprise, et qui permet en fait de mesurer les distances entre les deux boîtiers de façon très précise. Et cette technologie, c'est une technologie qui n'est pas présente aujourd'hui encore dans les téléphones, sauf dans le dernier iPhone, donc qui va se démocratiser et donc qui est présente dans ces boîtiers, qui s'appelle l'Ultra Wideband.
Vous avez déjà pas mal de commandes, je crois.
Oui, on reçoit tous les jours des dizaines et des dizaines d'entreprises qui cherchent une solution pour s'équiper sur la distanciation sociale. Et on a déjà reçu plusieurs dizaines de milliers de commandes de boîtiers qu'on doit livrer à partir de la semaine prochaine à nos clients.
Ça marche comment ce boîtier ? Il faut le recharger ? Je crois qu'il y a une autonomie de 24 heures, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, même de plusieurs jours dans certains cas. Mais l'idée, c'est que ça puisse permettre d'avoir une journée de travail qui est pleine et de le recharger éventuellement au domicile ou au bureau avec un chargeur, on va dire, collectif. L'important, c'est que ça dure au moins une journée. Et c'est un boîtier très léger, qui ne pèse que 70 grammes.
Ah oui, donc finalement c'est assez simple à porter, on n'est pas dérangé, ça pèse pas très lourd ni au poignet ni à la ceinture si on a envie de le clipper. Elisabeth, on est en train de parler de boîtiers, je crois que vous en avez trouvé un justement pour les transports scolaires.
Oui, avec le groupe, avec l'entreprise Groupir Technologies. À la base, c'est une entreprise qui propose des solutions de billetterie pour les transports scolaires, avec un badge pour permettre de vérifier la fréquentation des enfants dans les bus scolaires, les montées, les descentes. Et là, dans le cadre du déconfinement, ce qui pourrait être très pratique et assez intéressant, quand les transports scolaires vont se remettre en marche, hein, on n'en est pas encore, mais c'est bien de l'anticiper, c'est que ce sont des cartes de transport sans contact, donc avec leur badge de transport, le badge peut être détecté et validé même au fond du sac et ne nécessite aucune action de l'élève, donc pas besoin de le prendre avec sa main, de le poser devant un détecteur, tout ça, ça évite des gestes et ça fait partie en plus des gestes barrières à mettre en place.
François Cruta, Elisabeth, vous restez évidemment avec nous. On va accueillir ensemble, si vous le voulez bien, Thomas Devineau, qui est du côté de Toulouse, où pour aider à la distanciation sociale, eh bien la start-up Louis a mis en place des séparateurs de bureaux. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous vous êtes lancé dans la production, c'est assez récent, faut dire, hein, parce que ça n'est pas le cœur de votre activité en principe. Mais là, vous avez réalisé qu'il allait falloir vous adapter. Vous faites des bureaux, notamment en bois éco-responsable. Et comment vous est venue l'idée de switcher et de passer à la production justement de séparateurs ?
Eh bien, en fait, nous, notre métier, effectivement, c'est le bureau, et particulièrement le mobilier de bureau. On fait du mobilier qui est 100% custom et qui lutte contre l'obsolescence programmée. Et comme beaucoup d'entreprises, beaucoup de nos projets sont en pause à l'heure actuelle, puisque les gens ne vont plus dans les bureaux, donc nos commerçants ne peuvent plus aller vendre nos services, nos produits à nos clients ou à nos aménageurs. Et du coup, on a réfléchi à la question de comment préparer le retour au bureau, en fait, le déconfinement. Et c'est là qu'on a regardé ce qui se passait en Corée, au Danemark, dans des pays qui sont un peu en avance en termes de calendrier de déconfinement. Et on s'est rendu compte qu'ils proposaient des solutions digiphones qu'on pouvait trouver en supermarché ou dans des pharmacies, mais qui avaient commencé à l'adapter vraiment aux besoins du bureau. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, en disant, on va adapter un produit, on va essayer de le dessiner pour qu'il réponde vraiment aux besoins spécifiques du bureau, se protéger de ses collègues, éviter de passer un stylo, etc.
Donc, on a des séparateurs en polycarbonate, c'est ça ? On les assemble et vous dites que c'est très, très rapide, en moins d'une minute.
Exactement. En fait, on a développé un système de clips pour avoir un produit qui soit envoyable par colis à plat. Et un opérateur peut, en moins d'une minute, effectivement, assembler son poste de travail. Notre système, il est autoportant, il est fait pour résister au courant d'air. Enfin, vraiment, à un usage classique de bureau, en prenant le moins de place possible sur son espace de travail.
Ça signifie que votre projet qui s'appelle Vauban, j'imagine... par rapport au mot de protection, hein, je suppose. Vauban, je peux l'adapter à mon bureau, mais on va pouvoir l'adapter à un autre bureau. Il est modulable ?
Exactement. En fait, vous allez sur notre site, donc soit vous passez par louis.design, soit vous allez directement sur vauban.louis.design et vous allez avoir accès à tous nos produits, à toutes nos configurations de Vauban. Donc on a déjà en fait 5 configurations pour pouvoir travailler sur, si vous êtes tout seul sur votre bureau ou si vous êtes dans des espaces où il y a des ce qu'on appelle des benches, donc des bureaux partagés à 2, 4, 6 personnes. Et en fonction de votre disposition, on vous propose déjà des configurations préconfigurées. Et après, vous pouvez choisir chaque dimension pour vraiment avoir le produit qui va s'adapter à votre espace directement. Puisque chacun a des bureaux différents dans chaque bureau de France.
Avec déjà pas mal de commandes de mairie notamment et d'entreprises, je crois.
C'est ça, exactement. En fait, on a vraiment de tout. On a autant des PME que des corpos. On a des institutions comme le ministère des Armées qui nous a commandé des Vauban. Vraiment, voilà, on a enfin un produit qui soit le plus adapté à n'importe quel bureau partout en France.
Et oui, on s'adapte effectivement. On s'adapte et vous aussi dans le milieu de l'entreprise. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 13h29.
Europe 1.
La distanciation sociale est le nouveau paramètre qui va nous accompagner dans notre vie grâce notamment à la nouvelle technologie. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h31 sur Europe 1, vous le savez, hein, nous allons progressivement opérer un retour au travail, mais la question du respect des distances ne se pose pas de la même manière si l'on est dans un bureau ou si nous sommes en mouvement dans une entreprise ou dans une usine. Alors de nouveaux outils font leur apparition pour justement nous aider à contrôler ces fameuses distances. Bonjour Cécile Schmollgruber.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de Stereolabs et vous avez mis au point une caméra 3D qui intègre cet élément nouveau qu'est la fameuse distanciation sociale. Votre caméra, elle s'appelle Z2. C'est une caméra qui a été lancée en janvier et sa particularité, c'est de reproduire justement quasiment à l'identique la vision de notre œil.
Exactement. Donc chez Stereolabs, nous développons des caméras intelligentes qui marchent exactement comme nos yeux voient le monde extérieur et elles permettent d'analyser automatiquement les trajectoires des personnes dans un espace physique. Donc c'est ainsi qu'on peut repérer des personnes qui seraient trop proches. Et voilà. Et concrètement, comment ça marche? La caméra repère deux personnes qui sont trop rapprochées. Elle va alors envoyer une alerte à une enceinte connectée qui va émettre un son et un message pour prévenir les personnes en question.
Oui, donc ça signifie que cette caméra doit impérativement, dans l'entreprise, être connectée à une enceinte. Mais vous me dites, elle est capable de mesurer au centimètre près, de savoir qui est à 1m98 ou à 2m, à ce niveau de précision-là.
Exactement. On utilise une technologie qui s'appelle la stéréovision et qui mesure la distance des objets et des personnes de manière très précise. Et couplé à de l'intelligence artificielle qui va détecter les personnes, ça nous permet de détecter, de mesurer des distances, voilà, avec une précision assez élevée.
Ça signifie qu'on peut l'utiliser, par exemple, dans une file d'attente, dans une gare, dans des bureaux également?
Exactement. Donc l'avantage d'utiliser des caméras, c'est que on n'impose pas le port d'un boîtier, donc on peut gérer aussi la distanciation sociale avec des visiteurs, donc des personnes qui entrent dans un bureau mais qu'on n'a pas équipé au préalable. Et donc on permet de détecter la distance entre ces personnes dans différents types d'espaces. Un supermarché, un bureau, un espace public, parce que ça c'est la grande question bien sûr, et des usines. Voilà, ça c'est les cas d'application qu'on rencontre principalement aujourd'hui.
On est malgré tout, puisqu'il y a caméra sous surveillance permanente, est-ce que ces images sont archivées ou est-ce qu'elles sont en flux permanent justement?
Non, justement, donc elles sont traitées localement, c'est-à-dire dans un boîtier qui est situé juste derrière la caméra, qui va analyser les images, mais qui ne va rien envoyer à part les alertes. Donc ces traitements sont faits de manière anonyme. Ce qu'on va regarder, en fait, c'est la taille de la personne, la carrure, le volume, mais il n'y a absolument pas de reconnaissance faciale et on n'attribue pas d'identité à la personne.
Donc on est vraiment sur la distance entre un point A et un point B en fait. Hein.
Exactement. Et l'idée c'est non pas de sanctionner les gens aussi en leur disant attention vous êtes trop proche, mais c'est plus d'aider les personnes à prendre de nouvelles attitudes dans ce contexte très particulier, parce qu'on le voit quand on fait les courses aujourd'hui. Il y a quand même des espaces comme les couloirs ou les zones étroites où il est très difficile de maintenir les distances. Et donc, il faut apprendre à s'arrêter, laisser passer les personnes, puis passer à son tour. Donc voilà, c'est plus un outil pour nous habituer.
Oui, c'est vrai, effectivement, quand on fait les courses, vous l'avez dit, c'est vrai aussi dans les gares, ça va être vrai aussi au travail. Elisabeth, que dit justement sur ces questions de distanciation sociale le gouvernement une entreprise ?
Dans une entreprise, la ministre du Travail a dévoilé une série de règles assez strictes à appliquer. Par exemple, un espace minimum de 4 mètres carrés par salarié dans les bureaux et les commerces. C'est une règle de distanciation sociale qui s'applique aussi dans les couloirs. Quand on circule dans les couloirs, il faut respecter une certaine distance dans la cantine ou dans les ascenseurs. Dans les ascenseurs, moi, je me dis que c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est 2 personnes maximum, je crois, par ascenseur.
Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis ça dépend de la taille de l'ascenseur, évidemment. L'objectif, c'est aussi de maintenir au maximum le télétravail, donc assurer une certaine flexibilité pour les salariés. Et d'ailleurs, la ministre l'a dit, elle préconise un télétravail massif, au moins jusqu'à l'été, quand c'est possible, évidemment. Et l'entreprise devrait définir via une charte ou un accord avec les syndicats un mode d'emploi du télétravail. Ce mode d'emploi va prévoir, par exemple, les heures de déconnexion, ne pas être joignable toute la journée, ne pas travailler 18 heures par jour, prendre en compte que télétravailler avec des enfants à côté, c'est pas la même chose que d'être au travail. Voilà, entre ne rien faire et reprendre progressivement, il y a quand même des choses à ajuster.
Alors justement, en attendant que nous ajustions tout cela, vous, de votre côté, chez Stéréolab, vous avez eu le sentiment que depuis l'arrivée de la pandémie et du Covid-19, les entreprises faisaient de plus en plus appel à vous. Je crois que vous en avez vendu déjà 50 000 de vos caméras à travers le monde.
Oui. Oui, bien sûr, on a énormément de demandes. Il y a aussi les gouvernements européens et américains qui ont émis des appels d'offres pour trouver des solutions à mettre en place dans les États. Donc, on a répondu à ces appels d'offres avec des partenaires français et européens. Donc, clairement, il y a une très forte demande par les gouvernements et aussi les entreprises privées qui ont besoin aussi de rassurer les personnes qui travaillent. Et d'ailleurs, nous avons même nous-mêmes mis en place cette solution dans nos bureaux parce que nous continuons à travailler, à développer, à produire nos caméras. Et donc, on a dû trouver une solution. Et c'est rassurant d'avoir des caméras et de savoir qu'on surveille. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a identifié des zones au bureau qui sont malheureusement à risque parce que elles sont étroites, il y a beaucoup de passages. Donc, on a aussi changé l'aménagement du bureau pour éviter ces zones de couloirs ou de passages qu'on ne peut pas éviter.
Alors justement, vous allez rester avec nous parce que gérer la distance, c'est aussi savoir gérer les flux. Et pour ça, certaines sociétés ont un coup d'avance. Bonjour Sébastien Paris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président et directeur de la recherche et développement d'ONIS. Vous avez, vous, mis au point un logiciel qui gère justement le flux de personnes. Vous êtes en capacité de dire tel établissement peut accueillir en même temps tant de personnes, par exemple. Je ne sais pas, à Europe 1, on peut avoir 20 personnes uniquement au deuxième étage et 30 au troisième.
Alors c'est un petit peu le principe, effectivement. Notre logiciel permet de simuler en gros les activités des personnes et donc d'anticiper ce qu'il va se passer face à ces activités. Et suite à la crise du Covid-19, nous avons développé un module de simulation qui permet de simuler la propagation de ce virus en fonction des activités des gens. Donc ça permet en quelque sorte de contextualiser les mesures de protection que vous allez pouvoir prendre en fonction de l'aménagement de votre espace, des activités qui ont lieu et puis de ce virus. Covid-19.
Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que vous arrivez à simuler les flux pour voir quelle est la capacité maximale d'occupation dans un lieu en fonction des différentes contraintes de l'entreprise?
Alors, on a développé une technologie qui est basée sur les sciences cognitives. Donc, c'est une approche de l'intelligence artificielle qui va permettre de reproduire les comportements des personnes. Donc, on va simuler dans une maquette numérique. C'est en quelque sorte un plan de l'environnement en trois dimensions. On va simuler les activités de ces personnes-là et ça va nous permettre de sortir un certain nombre de métriques d'analyse, donc d'indicateurs qui vont nous définir quelles sont les densités locales, comment les personnes vont pouvoir circuler dans l'espace sous contrainte potentiellement, donc si on réaménage des files d'attente par exemple, des choses comme ça, et par-dessus ça, et extraire d'autres métriques d'analyse qui sont les probabilités de contagion de l'environnement par ce fameux virus.
Donc les fameuses zones à risque, les couloirs étroits par exemple dont on parlait tout à l'heure, vous savez vous les gérer et dire attention, voilà comment il faut circuler à tel ou tel endroit ?
Alors, on sait identifier des zones qui vont présenter un risque important. Et on a aussi une activité de bureau d'études, en plus de l'activité d'éditeur logiciel, qui va pouvoir faire des hypothèses de réaménagement et des propositions de réaménagement. Et tout l'intérêt de notre logiciel, c'est de pouvoir tester un grand nombre de ces hypothèses pour arriver à trouver celle qui va être la plus optimale.
Oui, la grande difficulté, c'est justement de s'adapter finalement aux besoins de chaque entreprise, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. Dans une radio comme Europe 1, par exemple, on ne circule pas de la même manière que dans une école.
Exactement. Vous allez avoir on appelle ça des populations dans notre jargon, mais des catégories de populations qui vont avoir des activités différentes. Et ces activités vont être fortement liées à l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, dans une gare, vous allez avoir des voyageurs et puis du personnel qui gère la gare. Et dans une radio, vous allez avoir effectivement des personnels de différentes catégories qui vont avoir différents types d'activités. Et nous allons représenter chacun de ces personnels-là pour représenter l'ensemble des activités que vous allez trouver dans le lieu. Alors, vous parlez d'un bureau, mais c'est applicable aussi, on travaille beaucoup avec les collectivités pour tout ce qui est aménagement de l'espace public, hein, sur l'événementiel et sur les transports.
Oui, y compris les transports. Et alors, je parlais des écoles, justement, Elisabeth, concernant les écoles, c'est vraiment compliqué, là, pour le coup, à mettre en place.
Alors ça, chaque école tente de trouver sa solution, parce que chaque école a son propre bâtiment, donc c'est très compliqué. Sachant qu'il y a un protocole sanitaire qui a été rédigé, hein, si vous pouvez le consulter là dès aujourd'hui sur le site du ministère de l'Éducation nationale, un protocole sanitaire de plus de 50 pages. La pré-rentrée, elle est prévue le 11 mai pour les enseignants et les élèves des classes de maternelle pour certaines écoles et des écoles élémentaires retourneront à l'école le 12 mai. Ça, c'est sur le principe. Mais les écoles n'ouvriront seulement si elles respectent ce protocole national sanitaire strict. Donc ce sont les écoles qui déterminent là en ce moment, hein, ils se réunissent sans arrêt en visio ou par téléphone au cas par cas, pour déterminer la manière dont les élèves seront accueillis, parce que dans ce protocole, par exemple, les tables des salles de cours devront être espacées de moins d'un mètre, donc ça dépend aussi de la taille de la salle. Toutes les écoles n'ont pas des salles de 50-60 mètres carrés. Il va falloir nettoyer sans arrêt, éviter à ce que les enfants s'échangent des crayons, des tubes de colle. Le repas devra être fait dans la classe, tout en respectant les gestes barrières, espacer et échelonner les heures, les sorties, les entrée des élèves. Et dans la majorité des cas, les enfants ne retourneront pas à plein temps parce que ça va s'étaler sur plusieurs semaines. Ça dépendra des classes. À Paris, par exemple, ils sont partis en priorité sur le retour des enfants des familles monoparentales, des élèves décrocheurs, des enfants dont les parents exercent des professions comme des personnels soignants en première ligne, les enseignants, les travailleurs sociaux, les commerçants ou celles et ceux qui travaillent dans les transports. Voilà, donc et tout ça va s'échelonner sur plusieurs semaines. Ça, c'est ce qui est ressorti aujourd'hui. Mais bon, tout est en évolution constante.
Tout peut bouger, oui.
Voilà, et tout peut bouger.
On va le voir d'ailleurs dans les jours qui viennent, hein, puisque normalement, on devrait avoir des précisions d'ici le 7 mai. Merci d'avoir été avec nous. La France bouge continue, 13h44.
Europe 1.
Comment la restauration, les cantines vont s'adapter aux nouvelles contraintes? La réponse, c'est dans un instant avec nous sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h46, si vous faites partie de ceux qui vont remettre leurs enfants à l'école, vous savez déjà que la cantine ne sera pas possible, mais déjà des entreprises réfléchissent à pouvoir nourrir de manière collective tout en respectant les nouvelles mesures. C'est le cas de Foodles. Bonjour Clément Bonhomme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de cette start-up qui propose une solution de restauration au bureau. Vous avez, vous, réfléchi à une offre adaptée aux contraintes qui vont perdurer justement après le confinement, en respectant les fameuses normes dont on parlait, les procédures strictes de livraison, mais aussi le retrait sans contact des plats. Et vous avez également commencé à réfléchir à un aménagement des cantines.
Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, nous, on a une solution de restauration d'entreprise qui est dématérialisée. Donc sans personnel sur place, donc avec une part des frigos connectés qui sont remplis tous les matins par nos livreurs, et en parallèle à un système de précommande. Donc ça permet aux salariés de se restaurer en toute autonomie. Donc c'est vrai que par rapport au Covid, la solution est idéale parce qu'il n'y a pas de contact avec le personnel. Et d'autre part, on est très flexible par rapport au volume de repas, ce qui est beaucoup plus difficile pour la restauration d'entreprises traditionnelles.
Et en plus de ça, que les salariés vont pouvoir, par exemple, précommander leurs repas et les trouver dans le frigo, venir simplement les retirer. Il n'y aura pas de contact avec quelqu'un qui va leur donner le plat.
Exactement. Donc, soit ils peuvent aller directement dans nos frigos, soit ils peuvent précommander leur repas et venir le rechercher dans un lieu sûr dans l'entreprise. Et en plus de ça, on a quand même mis en place des mesures sanitaires qui sont fortes. On propose des protocoles de désinfection aux entreprises pré-ouverture. Et on va même jusqu'à le réaménagement des espaces de restauration, avec le marquage au sol. On propose du gel désinfectant, des couverts à usage unique, compostables. Et on a même mis au point une... Allez-y.
Ouais, le repas, c'est par essence un moment de convivialité. On arrive quand même à mixer les deux?
C'est compliqué, comme vous le dites. Le repas, c'est avant tout un espace de convivialité, mais on a quand même des contraintes sanitaires qui sont fortes. Donc nous, on fait au mieux pour garantir un service qui soit safe pour les salariés. Et en même temps, la restauration, c'est tellement essentiel pour les collaborateurs, d'autant plus que les restaurants resteront fermés un certain nombre de temps. Donc c'est clairement critique pour les entreprises.
Oui, et vous dites on est en capacité, nous, justement, d'apporter une réponse aux grandes entreprises comme aux toutes petites.
Exactement. Vu qu'on est flexible et qu'on adapte nos volumes par rapport aux consommations, on a aussi bien des petites entreprises qui font appel à nous, mais on a eu des grands groupes du CAC 40 qui nous ont appelés un peu en détresse parce que leur cantine, leur self, ne pouvaient pas réouvrir lors de la reprise. Et d'autres entreprises qui ont des tickets restaurants, mais malheureusement, les tickets restaurants, vu que les restaurants sont pas ouverts, ont aussi des problèmes de restauration. Donc on essaye de s'adapter au mieux et de rapidement pouvoir mettre en place sous 10 jours l'ouverture d'un self pour les salariés.
Oui, avec énormément de demandes déjà.
On a beaucoup de demandes. On a été assez surpris parce qu'aujourd'hui, on est présent à Paris, Île-de-France, Lille-Lyon. Et on a eu des demandes de toute la France. On a même eu des écoles qui nous ont appelés. Donc c'est vrai qu'on a été assez surpris par l'ampleur du phénomène. Parce qu'en fait, pour les restaurateurs traditionnels, c'est pas évident de s'adapter aux normes sanitaires. Et surtout, en fait, il y a des volumes qui vont être un petit peu faibles au départ au vu de la montée en charge du personnel qu'ils vont reprendre en entreprise.
Oui, vous avez raison, ça s'annonce assez compliqué. Alors, vous parliez des restaurateurs, justement. Je voudrais qu'on aille voir comment eux vont s'organiser. On a trouvé une solution inventée par Hamid Rabhi, qu'on connaît bien à La France Bouge. Bonjour, Hamid.
Bonjour, Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu nous voir. Vous êtes un habitué, si j'ose dire, des inventions. Mais là, c'est Time Saver que vous avez mis au point. L'idée, c'est de mettre en place justement un système pour protéger à la fois les salariés et les clients des restaurants le jour où ils vont rouvrir. Vous proposez d'installer en fait des puces électroniques sur chaque table et de mettre les menus à disposition en virtuel.
Exactement. Je vais essayer de vous présenter Time Saver. Time Saver est une application en fait, qui va permettre de faciliter la réouverture des restaurants pendant cette période de pandémie du Covid-19. On a environ, d'après le ministre, on a 246 000 établissements de restauration en France. Le client peut choisir sa table et passer sa commande avant d'y aller au restaurant ou en arrivant directement depuis son smartphone. En fait, le but est de réduire au maximum les contacts entre les serveurs et les clients. Le serveur viendra seulement déposer et ramasser les plats. Le client paiera directement avec son smartphone, plus besoin de faire la queue devant les restaurants et de prendre des risques. Les clients pourront choisir et réserver leur table directement sur l'application.
Donc ça signifie que le client, quand il réserve sur l'application, il sait si la table est disponible ou pas et il sait quel est le prochain créneau pour pouvoir venir déjeuner.
Exactement. Le client va, avant d'y aller au restaurant, il va savoir si la place est disponible. Et en plus, on a un système de 3D. Le restaurateur va prendre la photo de son restaurant. Vous pouvez choisir votre table où vous allez vous asseoir. Vous choisissez votre table et vous pouvez commander à distance. Ou sinon, dès que vous arrivez au restaurant, on a des cartes, des puces NFC. Dès que vous rentrez au restaurant, vous posez votre téléphone, vous allez vous connecter directement sur les menus du restaurant. Vous commandez ce que vous voulez, vous payez, vous pouvez offrir un verre à une personne, ce que vous voulez, vous pouvez payer directement l'addition. Vous commandez ce que vous voulez, le restaurateur ou le serveur viendra uniquement pour vous ramener vos plats. Si vous avez besoin d'un renseignement, il y a une touche, vous appuyez, le restaurateur voit sur son écran que table 1 ou table 2, on a un appel, on a besoin de lui parler. Raison de plus, le restaurateur n'a plus besoin d'investir dans des appareils électroniques, ainsi de suite, des ordinateurs, avec son ordinateur, simplement d'y aller sur Time Saver, partir de là, il va télécharger, donc il va avoir directement accès à son espace. Et là,
il faut qu'il équipe les tables quand même avec les puces dont vous nous parlez.
C'est des petites puces, tout à fait, oui, tout à fait. C'est des puces qu'il peut lui-même programmer, que ça ne coûte pas cher. C'est rapide à programmer. Et à partir de là, ils sont fonctionnels immédiatement.
Oui, et c'est vrai que c'est une vraie problématique, Elisabeth, hein, pour les restaurants, savoir dans quelles conditions ils vont pouvoir ouvrir. Il y a énormément de mesures qui ont été dictées.
Oui, il y a un guide de bonnes pratiques qui sera édité dès que le protocole sanitaire strict sera connu, hein, puisque ce sont eux qui vont ouvrir en dernier. Mais la priorité dans un restaurant, c'est la place en ce moment, hein, dans ce déconfinement. Donc il va falloir appliquer la distanciation sociale entre les tables. Et ça signifie, parmi les propositions qui ont été faites, de retirer au moins 50% d'entre elles pour respecter cette distanciation. Donc s'ils suppriment 50% des tables, ça signifie peut-être que le service sera plus long, de manière à accueillir davantage de clients, puisque ce sera échelonné. Pas de carte à manipuler, parce que là aussi, ça peut être rempli de microbes, de virus, pardon. Donc, pourquoi pas, certains préconisent l'ardoise, l'utilisation de l'ardoise pour présenter le menu. C'est à la vue de tous et personne ne la touche. Ou encore d'autres ont proposé des sets de tables jetables de façon à pouvoir lire le menu et ne pas, à ce qu'il ne soit pas utilisé par d'autres convives. Voilà, tout ça, ce sont aussi des règles peut-être plus simples, de bon sens, et un peu plus évidemment compliqué à mettre en place, mais ça peut aussi permettre aux restaurateurs d'ouvrir un peu plus tôt que prévu.
Oui, effectivement, et c'est vrai que ça va être quelque chose à scruter dans les jours qui viennent avec, je le rappelle, hein, ces deux innovations aussi, Foodles et Time Saver, qui vont peut-être aider justement cette filière à se remettre sur pied. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans La France Bouge. Elisabeth, nous, on se retrouve demain. Bien sûr, 13h54. Europe 1. Vous restez avec nous, c'est Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, qui va nous rejoindre pour vous répondre. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h56, c'est l'heure de retrouver l'avocat d'Europe 1 qui répond à vos questions. Maître Pérez, Roland Pérez, bonjour.
Ben salut Raphaël, bonjour à tous.
Alors Roland, comme chaque jour, nous avons de nombreuses questions à vous poser. On commence par celle de Brigitte. Je ne comprends pas bien, dit-elle, la différence entre zone rouge ou zone verte. J'habite en Normandie, je ne sais pas ce que je pourrais faire ou non à partir du 11 mai. Pouvez-vous m'éclairer ?
Elle a raison, Brigitte. C'est un peu compliqué à comprendre parce que, en fait, il y a très peu de différences. Hein. Les différences se situent vraiment dans le détail, c'est-à-dire que dans les zones rouges, par exemple, les crèches vont, comme dans les zones vertes d'ailleurs, vont bien rouvrir, mais dans les zones rouges, les collèges, par exemple, ne vont pas rouvrir. Dans les zones vertes, on aura les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées qui vont pouvoir ouvrir, les grands musées non, les forêts, a priori, pourraient ouvrir un peu partout. Les parcs et jardins vont être réservés aux zones vertes et le reste, les plages, les salles de sport, les colonies de vacances, les mariages, les lieux de culte, les cérémonies malheureusement funéraires, tout cela, les rassemblements plus de 10 personnes, les événements avec les concerts, les festivals, tout ça, plus de 5000 personnes, tout cela va concerner zone rouge et zone verte. Donc il y a quand même très peu de différence entre la zone verte et la zone rouge. Donc voilà, il y a un tableau qui a été très très bien fait par le gouvernement qu'on peut aller sur .gouv.fr et on peut retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur ce tableau où on explique bien le plan de défonds confinement à partir du 11 mai jusqu'au 2 juin.
Autre question posée par Nathalie cette fois. À partir de quand vais-je pouvoir rendre visite à ma famille qui se trouve à plus de 100 km de mon domicile? Je ne comprends pas pourquoi les Parisiens exilés en province ont le droit de rentrer et que nous, on ne puisse pas passer un week-end en famille, Roland.
Eh oui, rentrer, c'est ce qu'a dit Castaner. On peut rentrer à partir d'aujourd'hui, même d'hier, jusqu'au 11 mai, puisqu'on a été confiné pendant un moment. À partir du 11 mai jusqu'à 100 km, on n'aura pas besoin autour de soi, autour de son domicile, d'attestation pour se déplacer. Et au-delà des 100 km, on va retrouver cette fameuse attestation avec les motifs. Donc le motif professionnel, évidemment, il est assez facile à justifier quand le télétravail n'est plus possible. Et puis le motif après, impérial, familial. familial, impérieux familial, eh bien, ce motif impérieux familial va retrouver vie et aller voir ses parents à plus de 100 km, sauf si, et on ne lui souhaite pas, notre auditrice, que ses parents soient dans une situation de détresse de santé, de problèmes de vulnérabilité. Si ce n'est pas le cas, elle ne pourra pas, malheureusement, encore aller les voir. Il faudra justifier d'un motif, encore une fois, impérieux familial. Et puis, il y a toujours ce problème de savoir où sont ces 100 km. Vous avez plein de sites aujourd'hui comme Mappy, Esri, France, Google Maps, etc., qui vous permettent de calculer vos 100 km. Où vous avez, évidemment, vous pouvez très bien aller sur une carte routière. J'imagine que c'est ce que vous ferez avec votre fils. Vous allez prendre un compas, Raphaël, et tracer ces fameux 11 km au compas pour montrer à votre fils ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.
Un peu de maths et un peu de géographie en même temps, ça ne fait de mal à personne.
Exactement. C'est à quoi je
pensais. Merci Roland. Exactement. Merci Roland. On se retrouve demain, même heure, juste
demain,
avant 14h, pour répondre aux questions des auditeurs posées au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, à partir de midi, pour le Grand Journal.